Bien, ben, donc merci à vous. En fait, j'ai intitulé l'exposé L'école sans école. Vous voyez qu'il y en a une école qui a une lettre capitale, qui est donc l'école, celle qui sert à transmettre l'enseignement, l'éducation nationale, et celle qui n'a pas de capitale, c'est le lieu même de l'école, celui qui a été interdit pendant le confinement. Et l'objectif, en fait, on a voulu faire un livre qui va avoir ce titre-là et qui paraîtra, je pense, fin mars ou début avril. On a voulu essayer de trouver des gens qui allaient nous écrire un peu ce qui a pu se passer dans cette école sans école. En fait, pour valoriser notre objectif, c'est de parler du lieu, l'école, comme l'endroit où se passent bien d'autres choses que ce qui est conçu dans l'école avec sa lettre capitale au début, qui est limitée à la transmission de connaissances. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été réduit à agir en catastrophe. C'est étonnant quand même d'avoir à agir en catastrophe. Le 8 mars, bien sûr, fermer les écoles paralyserait le pays. Je croyais que l'école, ça ne s'occupait que de l'école. Ben non, c'est tout le pays qui serait paralysé si on mettait en place un confinement. Puis, 5 jours après, bien sûr, le confinement va durer. Et on demandait néanmoins aux enseignants et aux écoles d'accueillir les enfants des soignants. Là encore, on voit bien que l'école, c'est bien d'autres enjeux, c'est la structuration de société tout autant que de la transmission de connaissances. On a ouvert comme ça une période d'incertitude, hein, où très vite le numérique est apparu comme la solution, là en capital, bien évidemment. Le problème, c'est que les moyens qui ont été affectés étaient censés être prêts, il y avait les outils, mais ils n'ont pas tenu la route. Ils n'ont pas tenu la route parce que derrière le numérique, il y a un vrai travail industriel à mettre en place. Donc, on a eu les problèmes de Pronote pour le contact entre les parents et les enseignants. On a eu la saturation du CNED qui a conduit une personne à recopier tout simplement les fichiers du CNED et qui s'est vue. Cette personne qui agissait en indépendante et juste pour aider les parents, qui s'est vue menacée par le CNED si elle ne retirait pas son service, alors même que celui du CNED ne marchait plus. Donc les moyens n'ont pas été à la hauteur. Donc mais ça, c'était l'avant, quelque part. Il a fallu vivre avec. Le deuxième aspect, c'est qu'on a laissé les enseignants agir avec leur propre culture numérique, la leur, puisqu'il n'y a pas vraiment ni d'enseignement, ni de formation continue, ni de réflexion générale sur la culture numérique. Ben, qu'ont-ils fait? Ben, ce qu'ils savent faire, et c'est logique. Et donc, ils ont ouvert des comptes sur les services marchands, plus ou moins gratuits. Gratuits voulant dire qu'en échange de la gratuité d'un service, on va délivrer des données qui vont nourrir des algorithmes d'intelligence artificielle derrière. Voilà, donc on a eu une conséquence des choix. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, le Conseil économique, social et environnemental a fait un dossier. Et regardez la couverture, on est là en novembre 2020. Et donc, nous avons l'enseignement reste, le tableau blanc, l'ordinateur et bien sûr, pas de masque. Alors, dans l'exposé que je veux faire là, je vais traiter deux aspects. Un qui est lié autour de la technique. Vous avez un problème, nous avons la solution technologique. J'appelle ça la techno-béatitude. Evgeny Morozov appelle ça le solutionnisme technologique. Et le deuxième aspect, c'est dans tout cet épisode, on a essayé de réduire le rôle de l'école au rôle de transmission des connaissances. C'est-à-dire, on a repris le modus vivendi de ceux qui aujourd'hui ont pris un pouvoir, à mon sens, démesuré au sein de l'éducation nationale, qui sont les neuroscientistes. C'est-à-dire de croire que l'éducation, la transmission des connaissances, surtout des connaissances disciplinaires, relèverait en fait des sciences du cerveau et qu'on allait devoir adapter l'enseignement, l'enseignant, l'élève lui-même, la famille, à cette capacité en fait définie par les neurosciences. Premier aspect, on va commencer par une petite vidéo. Est-ce que vous avez le son?
It's night, it's night.
I see you, so we're
Donc, nous sommes un peu dans la situation que nous avons connue lors du confinement. Les gens étaient, comme ce garçon, empêchés de sortir, coincés chez eux, lui avec une jambe cassée. Et que va-t-il être proposé à cet enfant ? La technologie, bien évidemment, qui va le faire vivre comme s'il était avec ses amis dans la neige. Bien évidemment. Alors, si on regarde bien ce cadeau de Noël, c'est aussi ce qui a été présenté pour l'ensemble des écoles, qui est une attitude de techno-béatitude. On va avoir de la continuité pédagogique, ça a été le grand terme à la mode. Mais en fait, le contenu pédagogique est complètement disrupté. Je ne vais pas insister là-dessus parce que Stéphane Bonnery a fait un excellent exposé justement sur ce sujet-là, sur le fait qu'on ne pouvait pas faire le même travail à distance et quand on est dans une situation collective. Je dis bien collective, c'est-à-dire pas uniquement présence du maître et de l'élève, mais bien présence collective de l'ensemble des élèves pour encaisser le coup. C'est pas simple d'apprendre. C'est vraiment quelque chose de très, très compliqué. Enfin, avec notre regard d'adulte, quand on regarde tout simplement de très jeunes enfants, quand on voit la quantité de choses qu'ils peuvent apprendre en très peu de temps, on se dit que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, l'apprentissage. Mais qu'est-ce que c'est compliqué ? Donc, plus on est nombreux, plus on serre les coudes et plus on a cette capacité à réellement apprendre quelque chose. Bon, les choses étaient prêtes, mais on n'a pas vraiment réussi à passer à l'échelle. Et puis, il s'est posé une autre question très vite, ça a été celle des examens. Alors, on a changé l'enseignement, on n'est plus dans le modèle traditionnel, mais pour autant, pour valider cet enseignement nouveau, expérimental, on est passé par des examens de la même situation et on a demandé à des logiciels de surveillance. Donc, on a installé en fait dans le cadre de l'école la technosurveillance. C'est un exemple ici du logiciel Proctor Exam où en mettant sa carte d'identité, reconnaissance faciale, si c'est une société libre, ça la reconnaissance faciale, on peut mettre quelque chose qui prouve qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce grâce à son téléphone et on va donc pouvoir réaliser un examen en étant complètement surveillé. Certes, je sais bien que les étudiants ne sont pas des saints et que beaucoup essayent de truquer leur examen. Ce que ça nous oblige à poser, c'est surtout, c'est quoi un examen dans le cadre d'une formation? C'est quoi une note dans le cadre d'une formation? Comment est-ce qu'on va pouvoir réfléchir avec l'exemple que nous venons d'avoir, à autre chose que d'instaurer la technosurveillance. L'autre question qui s'est posée au tout début, c'est Internet va-t-il tenir ? Tous ces gens qui rentrent chez eux et qui d'un seul coup se mettent à regarder, on a considéré que les adolescents passaient 7h30 par jour devant un écran pendant cette période-là, ce qui est quand même quelque chose d'énorme. Visiblement, Internet a tenu, malgré le télétravail, malgré l'éducation, etc. L'Internet ne s'est pas écroulé. Par contre, les services construits sur l'Internet se sont écroulés. Et donc, cette distinction est importante entre l'Internet lui-même et les services. D'autant que si l'Internet lui-même est maintenant dominé par un petit groupe de quelques sociétés, appuyé sur les entreprises traditionnelles de télécom, les services eux-mêmes ont une large panoplie de sources et d'origines, notamment les services pédagogiques. Alors, quand les services pédagogiques s'écroulent, ça a des conséquences absolument énormes sur les élèves et les étudiants. Je lisais récemment dans Le Monde, et là récemment, donc, ce qui montre bien que la qualité de ces services n'a pas vraiment augmenté depuis un an, malgré tout ce qu'on aurait pu apprendre justement de cette école sans école. Donc, c'est tous les étudiants qui devaient passer des examens parce qu'on a considéré que le premier semestre de 2020-2021 devait être sanctionné par un examen, comme d'habitude, et ces étudiants qui n'arrivaient pas à se connecter pour des raisons multiples et variées, comme ce que dit Olivier Hirschfeld dans un tweet balancé hier, ou avant-hier, panne géante de Wi-Fi le jour du retour des étudiants. Donc voilà, on comprend bien qu'il y a des choses contenues, mais il y a des choses qui étaient très largement sous-dimensionnées, c'est-à-dire qu'on n'a pas, dans le passé, construit une véritable solution, je dirais, industrielle et technologique autour de l'éducation, une solution qui protégerait les données des enfants. Et donc, on a confié à des entreprises extérieures, qu'on appelle EdTech, le soin d'inventer à la place de l'éducation nationale les outils, les techniques et, in fine, les cours tels qu'ils ont pu se réaliser. Mais les EdTech eux-mêmes, on le voit avec Pronote, n'avaient pas la dimension nécessaire. Et donc, que s'est-il passé tout à fait naturellement? On est retombé chez les GAFAM avec des Zoom, Discord, Teams de Google, etc. Et comme dit un membre de la cellule de prospective de la CNIL, du jour au lendemain, nous avons tous migré aux États-Unis. Alors, pourquoi? Parce que nous avons un vieux passé d'éducation nationale avec Microsoft. Parce que Microsoft n'est pas seulement un vendeur de machines, mais il vend des concepts. En fait, ce qu'il faut bien, j'ai été enseignant d'informatique, et donc je vois bien derrière que ce qu'on fait en informatique, c'est créer des micro-mondes. On crée des univers à l'intérieur duquel les usagers vont se déplacer. Que ces univers soient des univers de bas niveau, comme on dit, c'est-à-dire très proches de la machine, qui vont permettre à des usagers qui sont les développeurs de services, ou que ces univers soient des services qui vont permettre à des usagers qui sont, vous et moi, enfin tout utilisateur de services techniques. Or, derrière tout ça, il y a des concepts. Un algorithme, c'est jamais qu'un être humain qui a mis ses idées dans une forme de langage qui va devenir opérationnel. C'est du langage qui est réellement performatif cette fois. Et Microsoft fait depuis des années aux États-Unis la promotion des tests standardisés. Son modèle, c'est le test. Microsoft Education, c'est tester les gens avec des QCM. Ça a échoué aux États-Unis. Ça a créé des problèmes. Je vais couper la vidéo. Ça a échoué aux États-Unis. Ce qui n'empêche pas le ministère d'avoir confié à cette entreprise Microsoft pas seulement la réalisation technique, mais la formation des cadres de l'éducation nationale. Voilà, je pense que là, on a un basculement vers les tests, et les tests, c'est bien, c'est ce que savent faire les machines. C'est absolument pas ce qu'il y a besoin pour faire de l'enseignement. Autre aspect qui est apparu très violemment, violemment je dirais, c'est les inégalités d'accès. C'est-à-dire il faut mieux être à la ville que dans une zone blanche, il faut mieux avoir la fibre, avoir un matériel récent et puissant pour pouvoir accéder à tous les outils comme Zoom que nous utilisons actuellement. On s'est posé aussi une autre question. Il y a les jeunes, les ados ont des compétences avec leur outil habituel, ce qui est le téléphone mobile. Peut-être. Moi, j'en suis encore à taper avec un seul doigt sur mon mobile, alors que je tape avec 10 doigts sur mon ordinateur. Mais est-ce que le téléphone mobile est un outil de travail? Voilà ce qui s'est posé comme question, notamment dans les familles où il y avait en général un ordinateur pour tout le monde et qu'il était monopolisé par la personne qui était en télétravail, bien évidemment. Donc, les autres devaient se connecter sur un mobile, et sur un mobile, on assiste, on est en flux descendant. Or, la pratique principale de la pédagogie, c'est de créer du flux ascendant, faire en sorte que quelque chose parte de l'élève, de l'étudiant, et se développe comme ça. Mais ces aspects techniques sont en fait moindres encore, mais là je ne vais pas revenir parce que ça a été très très bien expliqué, bien mieux que je ne le ferai par Stéphane Bonnery précédemment, c'est les inégalités de situation. Ce n'est pas la technique qui est le frein le plus important, c'est le fait qu'on est quand même mieux quand on a une chambre à soi, quand on a un ordinateur à soi, ou même un casque audio pour soi, avoir autour de soi des gens susceptibles de vous aider. Et avec le déportement, l'école sans école, de facto, on a vu, et ça a été rappelé par Stéphane Bonnery, que les parents ne sont pas des enseignants et que tout cela a abouti à un renforcement des inégalités devant le savoir, et d'autre part à une perte de ce que Mimi Itô appelle les opportunités, qui serait un des objectifs de l'éducation. Alors, la situation a conduit les élèves à s'autonomiser, hein, fixer eux-mêmes des règles, elles-mêmes des règles de travail. Mais justement, l'autonomie, c'est quelque chose qui se construit, et je dirais même plus, qui se construit collectivement. on n'est pas autonome, on devient autonome, et c'est le rôle de l'enseignement, de l'éducation, de l'école, celle avec un E majuscule, que de promouvoir le développement de l'autonomie, pas de l'individualisme. De l'autonomie, c'est la capacité à être avec les autres, et ça, il n'y a rien de tel qu'un lieu comme l'école qui puisse le faire. Ce qu'on peut observer aussi, c'est cette grande souffrance des parents, bon, qui ne sont pas des enseignants, mais qui n'y étaient pas préparés. Mais c'était aussi le partage de l'espace, l'espace de travail avec des gens en télétravail d'un côté et des enfants toujours à côté. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la création du service Solidarité numérique, qui a été lancé le 30 mars, qui a reçu 17 000 appels de parents entre le 30 mars et le 30 juin, principalement pour faire face aux questions liées à l'école. Cette plateforme était animée non pas par des enseignants, mais par la MEDNUM, c'est-à-dire derrière par les intermédiaires numériques, les gens qui font de la médiation numérique, les espaces publics numériques, des choses comme ça, les bibliothèques, voilà. Et donc, on s'aperçoit que quand on est face à l'informatique, face aussi à la capacité à aider à l'apprentissage collectif d'une société, eh bien, on a des rôles qui se chevauchent et que l'exception des enseignants n'est pas si remarquable que ça dès lors qu'on approche, par exemple, de la question de la technique. Je vous laisse ça pour… voilà. Deux autres éléments, c'est on a vu le terme « décrocheur, décrocheuse » être multiplié dans les articles de presse tout au cours de ce printemps du confinement. Je pense qu'il est très dangereux. Je pense qu'il est très dangereux parce qu'il inverse les valeurs. Ça n'est plus l'école qui laisse tomber ses élèves, c'est les élèves qui décrochent. Et donc, on va renvoyer à leur propre responsabilité une situation de crise qui, globalement, touche l'ensemble de l'école. Et ça, cette idée de faire porter la responsabilité sur le maillon faible, croyons, c'est la télé-réalité, le maillon faible, hein, mais ça ne devrait pas être le message que va porter l'école. Donc, heureusement, de nombreux enseignants ont continué à travailler avec leurs élèves, à leur téléphoner. Je pense notamment aux CPE, hein, pour qui ça a été une grande partie du travail, puisqu'ils n'avaient plus à faire la police dans la cour, hein, et qui a été justement d'essayer d'assurer qu'on s'occupait bien d'enfants et pas seulement d'élèves. Alors, on a eu des activités qui marchent. Très intéressant dans le livre, donc il y en a deux qui sont traités et développés, et il y a ce journal qui a été créé par des élèves de CM1 et de CM2 dans l'Orne, un article fait par Elisabeth Schneider et Céline Thierry, qui montre que les enfants ont de l'imagination, qu'ils ont de l'envie, et comme je disais tout à l'heure, quand ils peuvent publier, s'adresser à d'autres, ça va beaucoup mieux. C'est quelque chose que Célestin Freinet avait connu depuis longtemps. Donc, ils ont quand même fait 14 numéros, ce qui est absolument extraordinaire, je trouve. À Poitiers, l'article de Hélène Pommier raconte comment un travail collectif engagé entre des élèves de lycée et des élèves de collège, de seconde et de quatrième, autour de vidéos sur les questions du genre, a pu perdurer malgré le confinement, parce que là encore, il y avait une production vidéo, et surtout, et c'est ça qui me semble très intéressant, c'est quand on produit de la vidéo, ben, on ne l'a pas appris à l'école, hein, les élèves l'ont appris ailleurs, justement par l'usage de ce qui se fait sur l'Internet. Dans ces deux cas, on voit que c'est le travail sur projet, la culture participative, je dirais, qui est majoritaire, parce que dans la culture participative, si on reprend la définition de Harry Jenkins dans le livre, c'est les plus aguerris aident les nouveaux venus. Donc, le travail en groupe est un élément essentiel. Autre élément, c'est que à mon avis, cette situation a remis au goût du jour quelque chose qu'on appelle l'éducation mutuelle. Dans leur livre « À l'école du partage », les deux documentalistes, Mario Carbillet et Hélène Millot, montrent bien que cette formule, qui était plébiscitée par Victor Hugo, par exemple, a été abandonnée au cours du XIXe siècle pour une formule plus rentable, qui est l'instituteur sur une estrade et les élèves tous en face, mais que… il reste à re-réfléchir aujourd'hui à ce qu'est l'éducation mutuelle, et ce n'est pas la classe inversée. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Bonnery. La classe inversée, c'est faire répéter les inégalités préexistantes. Et je pense enfin que les lieux de documentation, les lieux où on crée du document, sont un élément essentiel parce qu'ils sont des lieux transverses à l'ensemble des disciplines. Il faut peut-être que j'accélère. Je n'ai pas regardé l'heure. Bon, je vais accélérer. Derrière cette idée, il y a une idée assez ancienne qui date du début des années 2000, qu'on aurait des digital natives, c'est-à-dire que les jeunes sauraient très très bien se servir avec les appareils techniques. C'est une idée qui est bien sûr éliminée dès que l'on fait des études, comme l'on fait Anne Cordier avec les citations qui sont ici, et qui sont des jeunes qui sont dépossédés devant l'ordinateur. Pas tout, mais dépossédés devant tel ou tel élément, faute d'une culture numérique globale qui réintroduit chaque activité dans des concepts plus généraux. L'autre aspect du mythe des digital natives, c'est qu'il va dédouaner les enseignants d'apprendre des choses sous prétexte que les éléments essentiels marcheraient. Je pense que ce qu'on a vu pendant le confinement, c'est que c'est ce que j'appelle ici l'effondrement marketing, c'est-à-dire cette idée qu'il y a des générations qui savent tout faire, qui sont nées avec une souris dans la main, ça tombe bien, on ne sert plus de souris. Tout cela n'était en fait que du vent. Il n'y a pas de capacité innée à se servir d'un ordinateur, mais au contraire, on doit repenser en fait cette question du marketing, et on retrouve la question que je posais tout à l'heure. Pour les marketeurs, c'est essentiel d'avoir des outils de consultation, en plus très bavard sur les personnes, donc le téléphone mobile. Pour l'enseignant, c'est un outil de production. Parce que si, je le répète souvent dans mes cours, le numérique est un écosystème global, chaque outil qu'on va utiliser pour rentrer dans le numérique apporte son biais spécifique. Et ce biais-là, aujourd'hui, il est utilisé par les marketeurs, peut-être certainement contre l'autonomie et la liberté des individus. Juste pour la rigolade, la grande entreprise de couleurs professionnelles a inventé le jaune de la génération Z. Alors, génération, voilà maintenant que nous aurions une génération Covid. Comme si tous ces jeunes n'étaient pas assez ennuyés d'avoir dû faire école à la maison, de porter des masques, de ne plus pouvoir voir leurs copains. En plus, on va les stigmatiser d'être la génération Covid. Ce concept de génération, qui est au sens marketing du concept de génération, c'est en fait un meilleur moyen, et ça a toujours été utilisé pour pratiquer l'ado-bashing. Voilà ce que je pense fondamentalement de ces gens qui utilisent le terme de génération, et je vous conseille de ne jamais l'utiliser parce que ce sont des généralités qui ne servent en fait qu'à enfermer les gens. Je pense que si on doit dire quelque chose, c'est expérience Covid. Oui, il y a une génération qui va avoir une expérience nouvelle, radicale, certainement très utile pour le futur, et c'est à partir de cette expérience-là qu'il va falloir développer les projets. Dernière partie, je voudrais parler de l'école petite e, l'école le lieu. Et ce lieu, il est rempli de gens. En fait, il n'est pas vide du tout en temps normal. Mais ces gens-là ont disparu, ils sont devenus encore plus invisibles, notamment dans les médias qui ne parlaient que de l'enseignement de spécialité. Qu'est-ce que fait une cantinière? Attendez, que sont devenues les infirmières, les psychologues scolaires pendant tout ce temps-là? Elles ont continué à s'occuper à distance des élèves, à téléphoner. Mais pourquoi on ne leur reconnaît pas un rôle pédagogique? C'est quoi éduquer finalement? Est-ce que c'est uniquement transmettre les connaissances disciplinaires? C'est utile. Je suis éditeur et je vois bien que, par exemple, l'orthographe, ça reste quelque chose de sacrément utile à étudier. Mais ça va au-delà éduquer. Éduquer, c'est en fait, bon, prenons un exemple, la cantine est-elle un lieu pédagogique? Moi, je pense que oui, on y apprend plein de choses, le goût, à se comporter, à partager, on peut réfléchir, c'est quand même une activité essentielle. Voilà. Ça, c'est la publicité de Picard à la veille du deuxième confinement. Et là, on voit bien d'un seul coup qu'il n'y a plus rien à éduquer, c'est l'alimentation, c'est juste une corvée de plus, et donc on va l'industrialiser. Voilà. Problème de la psychologie. Alors, on s'aperçoit aujourd'hui que les jeunes vont mal. Ah bah tiens, ça c'est étonnant alors. Ça c'est étonnant vu que les situations faciles dans lesquelles ils doivent se débrouiller aujourd'hui. Bon. Ma question, c'est où sont les postes? Qui va créer des psychologues qui sont présents? Attendez, l'événement Covid, il est parti pour durer. Le Covid lui-même, mais ses conséquences sur l'économie, ses conséquences sur les relations sociales, ça, sont partis pour durer. Engageons-nous vraiment à penser que l'aide des psychologues scolaires, des infirmières scolaires, est un élément pédagogique aussi essentiel que de savoir transformer un cours fait au tableau noir vers un cours en ligne. Autre aspect, la documentation. Un centre de doc, c'est un lieu, c'est vraiment un lieu où on est présent, où on est coprésent, où on peut travailler ensemble. C'est pas seulement un rapport au livre. Hein, bon, je sais que les professeurs documentalistes n'ont pas eu la prime informatique, puisque justement leur métier c'était de s'occuper des bouquins. Voyons. Non, non, c'est un lieu avant tout où l'on fait des choses ensemble et où on est en transversalité. Et ce qui a disparu, c'est compréhensible l'organisation technique telle qu'elle a été mise en place ou subie pendant le confinement, c'est la transversalité. Et peut-être que s'il y a quelque chose à hériter de l'expérience Covid, c'est passer vers un enseignement transversal, multidisciplinaire. Dernier point, la camaraderie. Hein, l'école, c'est un lieu où on apprend à se frotter aux autres, à se frotter aux autres, aussi bien dans les chicaneries de cours d'école que dans la capacité à apprendre à les gérer, justement, aussi bien dans le harcèlement ou cyberharcèlement que dans la construction de réseaux de vrais amis. Enfin, il faut apprendre à gérer le monde qui est parfois violent contre soi, mais qui aussi parfois vous offre des aides. Et je pense que cette construction de l'adolescent, c'est un travail collectif, là encore une fois, qui incorpore beaucoup de choses de l'esprit du temps, du Zeitgeist. Et Dana Boyd, dans son livre C'est compliqué, avait expliqué très très bien que les ados, ils sont accros à la communication avec leur père, ils sont accros à être ensemble beaucoup plus qu'aux médias sociaux en tant que tels. Et le manque de contact est vraiment, je pense, la perte majeure du confinement. Moi, mes petites filles n'avaient qu'une hâte, c'était de retourner au collège, retourner voir les copines. En conclusion, j'ai essayé de travailler d'une part le côté technique, mais il me semble que le côté technique nécessite vraiment de l'investissement industriel, hein, de l'investissement auprès de gens qui sont capables de protéger les données. Là aussi, investissement industriel ne veut pas dire financer Microsoft une nouvelle fois pour mettre en danger les données personnelles des élèves, mais l'éducation nationale est là pour les protéger. Voilà, les gourous de la NTech sont pires en fait quand ils individualisent les élèves. Et ça, je pense, c'est un vrai danger. Il y a des révoltes aux États-Unis contre tous ces systèmes d'individualisation des élèves, notamment portés par Facebook Éducation. Enfin, un élément essentiel, c'est faut réfléchir à la notation. Qu'est-ce que ça veut dire noter? Rendre le côté visible. Donc, moi, je pense essentiel qu'on se rende compte que l'objectif de l'école, c'est de créer des individus autonomes et citoyens. La connaissance est un outil fondamental de l'autonomie et de la citoyenneté, mais ce n'est qu'un des aspects, et les autres acteurs invisibles de l'école doivent être remis en avant. Enfin, le côté vivant, il faut se voir pour être ensemble, pour construire. Et donc, ça veut dire que même à l'avenir, même quand tu auras plus de masques, même quand tout ça, il faudra que l'école soit un lieu qui les accueille au-delà peut-être de l'idée tout simplement de la transmission de connaissances, mais qu'on trouve des lieux, des espaces publics pour qu'ils puissent vivre ensemble, se rencontrer, se construire aussi. D'autant que en ayant tout reporté sur les familles, on a accentué les difficultés dans toutes les familles dysfonctionnelles. Et là, à nouveau, les questions des violences intrafamiliales sont en train d'exploser, justement, liées à ça. Enfin, dernier point, ne pas marquer au fer les jeunes qui ont subi cette épreuve, mais le considérer comme une véritable expérience qui va leur servir tout au long du XXIe siècle. Je terminerai en vous laissant à l'écran ce petit poème écrit par une élève du centre Aimé Césaire à Villejuif, Shana. Voilà. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long et je suis prêt à discuter avec vous maintenant.
Merci beaucoup Hervé Le Crosnier, merci d'avoir respecté parfaitement le timing et le temps qui vous était
Sauvé par le gong.
alloué. Donc vous avez en effet mentionné plusieurs aspects dans votre conférence qui vient de se terminer et le premier aspect c'était notamment l'aspect technique. Mathilde est revenue dans le fil de discussion sur l'échec aux États-Unis que vous avez mentionné très rapidement au sujet notamment des QCM.
La, comment dire, la, comment s'appelle, la Bill and Melinda Gates Foundation, donc la fondation Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a tout un secteur éducatif et ils ont réussi à convaincre le gouvernement des États-Unis, avant Trump, hein, ça date même de bien avant, c'était sous Barack Obama, de la capacité à créer des tests machines, donc facilement à évaluer, comme pour permettre à chaque élève, donc individualisation, au fur et à mesure de ses apprentissages, de s'évaluer, s'auto-évaluer, et in fine, en fin d'année, d'avoir une véritable évaluation, donc qui va lui donner la note. Ils ont même réussi à trouver que cette note-là, elle importait pour le prof. C'est-à-dire que si une classe avait de mauvais résultats, c'est parce qu'ils avaient un mauvais prof. Pas parce qu'elles étaient dans un quartier défavorisé, pas parce qu'elles étaient remplies d'éléments de famille dysfonctionnelle, non, c'était un mauvais prof. Donc, le prof devenait jugé sur les résultats au test standardisé des élèves. Merci Microsoft. Bilan, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les profs se sont mis à enseigner à répondre des tests. Ils n'enseignaient plus des connaissances, ils enseignaient comment est-ce qu'on doit bien répondre à un test. Voilà, on a une perte de connaissances. La fondation Facebook, la fondation Chan, donc du nom de la femme de Mark Zuckerberg, elle a développé un Facebook Education, donc avec l'idée justement de classes inversées, de choses qu'on apprend. Et quand les élèves arrivent à l'école, ils arrivent en classe et ils se retrouvent isolés devant leur ordinateur à l'école, un peu malheureusement, on a dû vivre à distance dans la période Covid. Et ces élèves-là ont craqué. Et donc, il y a eu des grèves portées, je n'ai plus en tête l'article du New York Times, mais je pourrais le retrouver, des grèves qui ont été portées par des élèves et des parents contre ce système éducatif. Et donc, on voit d'un côté qu'on a des gourous qui vous expliquent que les profs, de toute façon, ils sont nuls, les profs, vous savez, ils ne connaissent rien à l'informatique. Or, le monde du 21e siècle, c'est l'informatique, bah, tant qu'à faire. Et donc, eux vont prendre en charge toute la ligne, c'est-à-dire depuis la fourniture de l'ensemble des services jusqu'au contenu pédagogique et même à l'esprit dans lequel l'éducation doit être faite, c'est-à-dire un esprit, de se plier au mécanisme de ce qu'ils définissent comme étant une bonne société. C'est donc, on a un secteur économique qui définit ce qu'est une bonne société, qui l'intègre dans ses logiciels. C'est ça la force du logiciel, c'est qu'on intègre des préconceptions à l'intérieur de systèmes mécaniques. Et puis après, qu'ils vont proposer de former les gens à leur propre conception de l'éducation. Et voilà, en France, on a réussi à ne pas étudier l'échec de ce qui s'est passé aux États-Unis et à plonger dans les bras de Microsoft.
Dramatique. Justement, en parlant d'entreprise, il y a une question qui vient d'apparaître dans le fil de discussion que je relais. L'institution n'a pas accompagné les acteurs, enseignants, élèves, parents, et on a l'impression que l'école est même devenue une entreprise. Qu'en pensez-vous?
Je pense que ça ne doit pas être. Je pense que les profs ne sont pas dans cette logique-là. Et donc, en fait, ce dont on s'est aperçu et qui a été relaté par de nombreux articles, c'est une différence entre les profs et l'institution, hein, qui n'est pas seulement une revendication. Caractère revendicatif, c'est qu'avec cette école sans école, on s'est aperçu qu'il y avait, je dirais, deux conceptions même de l'école. Cette conception d'une école strictement employée au transfert des connaissances, avec cette place centrale des neurosciences, donc cette idée, je dirais, scientiste, en fait. La pédagogie, c'est un art. Enfin, vous savez bien, tous ceux qui arrivent à bien enseigner, ma foi, c'est qu'ils donnent quelque chose d'eux-mêmes. On n'est pas dans une technique pédagogique. Ce qui ne veut pas dire que les techniques n'aident pas. Pour peindre, il faut apprendre la technique picturale. Mais derrière, après, c'est l'artiste qui va s'exprimer. Ben, l'enseignement, c'est un peu pareil. Il y a des techniques, il y a des choses à apprendre. Mais globalement, c'est une personne qui va parler à d'autres personnes. Et donc, on va avoir des échanges interpersonnels. Et ça, ça me semble un élément essentiel, qui n'entre pas dans le cadre global de définir des enseignements prioritaires, de définir les choses qu'il faudrait absolument savoir, le minimum du bagage intellectuel. Le minimum du bagage intellectuel, c'est moi, il n'a pas beaucoup changé, lire, écrire, compter, mais lire aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que lire à la fin du 19e siècle, c'est être capable de lire la télévision, de lire les images, de lire les vidéos, et donc pour ça de les créer. Voilà. Mais globalement, ça n'a pas fondamentalement changé.
Alors, en ce qui concerne les enseignants et les parents démunis, il y a une remarque plus particulière d'une maman qui précise qu'on parle très peu finalement de la maternelle et que de son point de vue, c'est probablement dans ce cycle, le cycle 1, hein, que les enseignants et les élèves ont eu le plus de difficultés lors de cette période et même encore à l'heure actuelle. Alors, est-ce que...
Alors... D'une part, les jeunes parents, donc les parents d'enfants qui sont jeunes, sont aussi en général ceux qui doivent travailler. Et donc, on était dans une situation, enfin, ils sont à la pleine période de leur activité. Et donc, on avait ceux qui ne pouvaient pas aller travailler, qui restaient, je dirais, coincés à la maison, ceux qui étaient obligés de travailler, ce qu'on a appelé les premiers de cordée, et puis ceux qui travaillaient à la maison. Et le partage de l'espace avec des enfants a rendu pour eux une vie absolument impossible. Enfin, je veux dire, surtout quand les appartements étaient petits. Donc, avec cette interdiction pour les enfants de sortir, de s'exprimer, de respirer, qu'on peut comprendre du point de vue sanitaire. Je ne remets pas en cause l'idée même d'avoir fait un confinement. Je ne sais pas ma spécialité, j'en sais rien. Voilà. Je crois qu'il faut parfois accepter des choses quand on n'a pas de réponse. Voilà. Par contre, la manière dont ensuite on va retravailler la société, parce que derrière, retravailler l'école à partir de l'expérience Covid, c'est retravailler un projet de société collectif à partir de l'expérience Covid. Et donc, ce monde d'après, on a toujours dit qu'il ne fallait pas que ce soit le monde d'avant qui revienne en force. Je crois que plus l'expérience Covid se poursuit et plus on s'aperçoit qu'un certain nombre de choses ne doivent pas revenir. On en est à nouveau à rebloquer les avions, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on repense la question du transport, la question des déplacements. Enfin, on a plein de choses à repenser derrière. Mais je pense que sur cette question des maternelles, il y a un article qui est paru il y a 2 jours dans la revue en ligne qui s'appelle AOC, justement sur ces maternelles, en disant que c'était peut-être un endroit qui est le plus en danger de ce que j'ai appelé tout à l'heure le lobby des neurosciences, qui aujourd'hui essaye de nous transformer la maternelle d'un lieu de sociabilité collective autour du jeu des apprentissages du corps, de l'apprentissage par le corps, de l'intégration dans son corps, de son savoir, parce que c'est ça qui fait la connaissance. Je pourrais y revenir, mais c'est... Qu'une intelligence artificielle n'arrivera jamais à faire, c'est avoir des sentiments qui lui sont propres. Elle pourra imiter les sentiments, mais elle ne pourra pas les avoir en propre. Et donc, avoir une connaissance incorporée qui est l'objectif in fine, à mon sens, de l'éducation, de ne pas avoir des connaissances, c'est qu'elles soient en soi et qu'elles nous servent à l'ensemble de nos activités. Donc, c'est aujourd'hui, l'école maternelle est effectivement un lieu essentiel et en danger. En danger, d'autant plus que l'école maternelle, je dirais à la française, a vraiment une belle aura, avait une belle aura dans le monde entier, justement sur la capacité à intégrer les enfants.
Oui, et je tiens à préciser que les références qui sont évoquées maintenant, soit dans la conférence, soit dans les échanges qui ont...
On va mettre des liens.
Après cette conférence, seront ajoutés à la page web, hein, si Hervé le est d'accord. Donc, l'étudiante, hein, qui avait posé cette question spécifique sur la maternelle et qui intéressera probablement beaucoup d'autres formateurs, formatrices, étudiants, étudiantes présents maintenant, vous pourrez les retrouver, hein, ces références. Alors, vous avez évoqué tous les bouleversements et aussi donc ce sentiment, ou en tout cas ces expériences qui ont amené les enseignants, les élèves, les parents à se sentir démunis. Et puis, en même temps, on a senti peut-être un aspect positif avec l'émergence de travaux menés, notamment cette éducation mutuelle. Alors, est-ce que, mais ça c'est une question donc, qui peut être posée, est-ce que le contexte actuel serait un temps d'opportunité pour repenser l'éducation populaire?
Alors, deux choses. Un, contexte, deux, éducation populaire. Sur la question du contexte, c'est peut-être toujours dans les situations de crise qu'émergent les meilleures sociétés. C'est justement parce que les situations de crise sont des révélateurs de faiblesse, sont des révélateurs d'un projet qui n'est plus forcément adéquat. Les guerres du XXe siècle ont amené les Roaring Twenties pour la première et les conquêtes ouvrières de l'État-providence pour la seconde. Donc, on voit bien que des crises terribles sont celles qui peuvent ouvrir des perspectives ou pas. L'exemple de la guerre des Grands Lacs au Congo montre que ça peut durer indéfiniment, l'exemple de la Syrie aussi, et que les situations de crise, on peut ne jamais en sortir parce que, justement, on ne se donnera pas les moyens de penser le futur à partir de ce que nous apprend la crise, mais une volonté de revenir à des situations antérieures qui sont celles qui n'ont pas amené les crises, je crois malheureusement pas, mais qui les ont enfoncées quelque part, que quand la crise a été là, tout ce qu'on n'avait pas fait avant pour l'hôpital, tout ce qu'on n'avait pas fait avant pour l'informatique locale, la création industrielle d'un véritable secteur informatique local, européen, tout ce qui n'a pas été fait auparavant dans l'école comme réflexion, tout ça va accentuer la crise ou s'accentuer en période de crise. Et donc, comment on va s'en sortir derrière? Le principe de l'éducation populaire, et pour moi, c'est un principe que je défends énormément, c'est l'idée qu'on va partir de ce que sont et de ce que font les gens. Voilà. Et à partir de ce qu'ils font, on peut leur faire évoquer ce qu'ils savent. Ils font des choses, mais en fait, derrière, il y a un savoir. Et ce savoir, il est souvent complexe et n'étant pas valorisé par un examen, un QCM ou je sais quoi, il ne sort pas. Le rôle de l'éducation populaire, c'est justement de le faire sortir. Et puis, c'est aussi de faire en sorte que s'éduquer ensemble, quoi. Enfin, une forme intransitive, justement, pour bien penser, qu'on s'éduque, on se forme ensemble, s'éduquer va nous ouvrir forcément sur une réflexion civique, c'est-à-dire une réflexion sur la construction de la société. Ce que aux États-Unis, Henry Jenkins, autour de la notion de culture participative, il dit globalement la même chose que Geoffre Dumazodier disait au moment de la création de culture et société. Très intéressant. Il y a des éditions, les éditions MK, qui viennent de republier les travaux de Geoffre Dumazodier, qu'il a fait au sortir de la guerre, c'est-à-dire au sortir d'une crise, pour revendiquer un projet politique autour de l'éducation populaire. Voilà. Donc, il y a, là, encore une fois, le fait que des livres reprennent cette question, le livre de Marion Carbier et Hélène Buyot sur à l'école du partage, repart beaucoup de ces notions d'éducation populaire. Alors, est-ce que la crise va renforcer l'éducation populaire? Il y a un problème. Il y a un problème, c'est que l'éducation populaire, elle demande que les gens se voient, se rencontrent. Et ça, voilà. Donc, il faudra voir la période d'après. Ça n'est pas tout à fait pareil de travailler ensemble à des projets à distance et de les travailler ensemble dans la même pièce avec cette logique de les plus débrouillards aident les autres, qui est cette logique de la culture participative.
Alors justement, dans cette perspective des, on va dire, positive, en essayant d'envisager, une des questions qui est posée, c'est que gardera-t-on de ces expériences Covid ou confinement et que gardera-t-on de positif? Et puis je vais profiter de cette question pour en poser une peut-être encore plus spécifique. Les documentalistes, durant le confinement, vous avez évoqué notamment toutes ces personnes qui ont été quasiment rendues invisibles, les documentalistes durant le confinement, est-ce que vous auriez des exemples d'actions positives dans ce domaine-là précisément?
Comme ça, les exemples à brûle-pourpoint. Je sais qu'il y en a eu dans le blog qui s'appelle à l'école du partage.fr, fait par Hélène Mulot et Mario Carbillet. Ils ont cité toute une série d'exemples dans leur blog dedans. Ben, je crois que les documentalistes, c'est compliqué parce qu'elles gèrent des lieux. Elles ne gèrent pas des bouquins. Hein. Ça, c'est cette idéologie-là. Non, non, elle gère des lieux où il y a des gens qui viennent et qui se servent de la connaissance structurée en documents pour travailler, pour lire, pour produire, pour écrire, pour discuter, pour tout, et puis pour le plaisir aussi. Donc voilà, c'est tous ces lieux-là. Et certes, ce lieu avait disparu complètement. Donc là, on est créer un lieu de bien-être, c'est quand même plus facile, agréable et efficace quand c'est un lieu physique. Créer un lieu de bien-être en ligne, c'est possible, c'est un gros travail, c'est ce qu'ont réussi les exemples positifs que j'ai cités. Mais c'est vraiment beaucoup plus difficile justement à cause d'une part du fait qu'on est sans arrêt happé par autre chose quand on est sur nos outils technologiques. Et puis d'autre part, parce que la moindre chose qui dérape est mal comprise. Donc en fait, si on veut créer un lieu accueillant, ouvert, quelque part, il faut apprendre aux gens à être polis et respectueux, c'est-à-dire quelque part à pas être eux-mêmes. Quand je disais que dans la camaraderie de cour d'école, il y a aussi la chicanerie de cour d'école, ça fait partie de la construction de soi d'être capable de résister à ces chicaneries-là. C'est pas quelque chose d'inné, ça s'apprend et l'école doit l'apprendre. Voilà, tous ces enseignants invisibles, je dis bien enseignants invisibles, y compris les cantinières, parce que je pense que c'est quelque chose de très important, y compris les infirmières, les psychologues scolaires, etc. Tous ceux-là doivent participer de cette aide collective à la création des gens.
Oui, et si on pense aux étudiants, hein, actuellement, aux étudiants et aux étudiantes, hein, étudier, ce n'est pas seulement être sur un banc dans un amphithéâtre, hein, et toute la vie à côté là est aussi menacée. Écoutez, j'espère, hein, on espère avoir relayé, hein, la plupart des questions qui étaient posées dans le fil de discussion. Un grand merci, hein, pour toutes
Merci à vous.
des apports qu'on ne manquera pas, donc on en gardera une trace évidemment, hein, dans la page web. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci pour cette intervention. Donc voilà, énormément de remerciements dans le fil de discussion. On était 368, hein, donc une belle performance. On est ravis que ça fonctionne. On est ravis que vous ayez été aussi nombreux à répondre donc à l'appel de cette journée. Un grand merci encore donc à notre conférencier Hervé Le Crosnier. Je vous rappelle donc excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. La sortie de son livre donc aujourd'hui, du livre de sa maison d'édition, hein, autour de justement la Chine et le numérique. Voilà. On va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous dans une autre salle, conférence suivante.
Merci.
Bonne journée.